Jacques Grébol. Je ne vous parlerai pas de, en particulier du concentrationnaire nazi, parce que tout a été dit et redit. Je vous parlerai simplement des motivations. J'avais 15 ans, fils d'immigrés espagnols, et disons que la Révolution espagnole a été le prélude de la conflagration mondiale, prélude qui a permis aux Allemands et aux Italiens d'essayer les nouvelles armes qu'ils avaient mises au point, et fonction des capacités destructives de cet armement dont ils s'étaient dotés, d'adopter les stratégies qui leur permettraient par la suite de conquérir l'Europe en quelques mois. J'ai compris, je n'avais que 15 ans, et j'ai déjà compris que tout ce qui n'entrait pas dans l'idée, que tout ce qui n'entrait pas dans le cadre de l'idéologie nazie, c'était pour eux, ça représentait zéro. La vie pour eux ne valait rien, la vie des autres. Il n'y avait que leur idéologie qui était primordiale. Ceci s'est constaté par le bombardement de Guernica, petite ville basque, qui en 3 heures a été pratiquement rayé de la carte du monde. C'est là que j'ai pris conscience de leur barbarie, de leur brutalité, de leur cynisme. Et je me suis juré de ne jamais plier le dos devant eux. Puis l'invasion de la France. J'ai vécu jusqu'en mars 1943 les privations, les misères du pays, le pillage du pays, les difficultés de la population pour survivre. J'ai connu aussi, on parle de résistance, mais j'ai connu aussi ceux qui se sont mis du côté de l'occupant, des collaborateurs. Sans aller plus loin, la police et la gendarmerie que lui avait mis à disposition de l'occupant. Les accords pour le STO, pour envoyer de la main de prendre l'Allemagne. Il faut signaler qu'après les revers de Stalingrad et en Afrique du Nord, tous les Allemands mobilisables étaient partis au front, donc il fallait une main d'œuvre criante. Et si avant la notion de travail était considérée comme un paramètre de destruction de l'humain, de sa résistance, par la suite, cet objectif a changé pour devenir un travail efficace pour l'économie de guerre allemande. Mais toujours avec la notion de mort programmée, donc épuisant. Parler des conditions de vie dans les camps, on vous en a déjà parlé, vous le savez. Je dirais tout simplement que la résistance en France, au début, a été très parcellaire, très risquée. Disons que ce fut une résistance de petits coups d'épingle, et qu'au fil des ans, des mois, elle s'est structurée, elle est montée en puissance grâce à nos alliés, et que nous avons pu sur le territoire, par l'intermédiaire de Jean Moulin, unifier les forces françaises de l'intérieur. Que, en passant, je vous le signale, le général Eisenhower a jugé que leur action en tant que force française de l'intérieur était l'équivalent pour la libération du pays de 15 divisions, ce qui n'est pas peu dire. Ce qui a permis à la France de sauver son honneur, d'avoir un siège permanent aux Nations Unies, et de retrouver la place qui était la sienne, l'audience qu'elle avait dans le monde. Maintenant, pour ce qui est de la vie dans le camp, je ne tiens pas à mettre en d'autres là-dessus. J'étais interné quand même au camp de Sachsenhausen début mai 43, déporté au confluent de la Warta et puis de l'Oder à la frontière polonaise près de la Baltique. Au bout de ma quarantaine qui a duré à peu près une douzaine de jours, période pendant laquelle on apprenait rapidement l'essentiel en allemand auquel nous devions répondre instantanément sous peine de coup, disons que nous avons fait nos classes de concentrationnaires dans l'univers nazi. Il ne faudrait pas quand même confondre que l'univers concentrationnaire nazi a visé deux catégories de personnes, de groupes humains. Ceux qui ont été victimes des lois raciales, dont les victimes de la Shoah, 6 millions, ce qui fait en soi-même un crime abominable et impardonnable, qui marquera à jamais la civilisation du XXe siècle. Mais il ne faut pas, pour cela, oublier les 4 millions de femmes et d'hommes, parfois à peine sortis de l'adolescence, qui, motivés par leur conscience, furent victimes de la répression nazie, compte tenu de leur attitude envers le régime. En ce qui concerne la France, il y a à peu près 90 000 Français qui ont été déportés. La moitié sont morts. 10-15 ans après, la moitié des rescapés étaient décédés des sites de leur déportation. N'oublions pas que c'était en grande majorité une population jeune, des hommes, des femmes. Car n'oublions pas le rôle des femmes dans la résistance. Le rôle de ces femmes qui, par leur comportement, leur motivation et le moral élevé qu'elles avaient, nous, déportés, nous leur tirons notre chapeau. Le courage dont elles ont fait preuve. Maintenant, qu'est-ce qui nous a permis, nous, de résister? Parler de résistance dans les camps, c'est aussi parler de la peur permanente, de la mort omniprésente qui faisait partie de notre quotidien. C'est parler aussi de ces droits communs qui faisaient l'encadrement sous le contrôle des SS des détenus, des mauvais traitements, de la faim, des poux, de la misère, de la vermine, des épidémies qui en dépendaient, des conditions de brutalité, de nous détruire moralement avant de nous exterminer physiquement. Ils avaient calculé, les Allemands, que compte tenu du régime et des conditions de vie qui nous étaient imposées, la vie d'un déporté devait se résoudre à 9 mois. Et d'après leurs calculs, dans ces 9 mois, ils devaient rapporter 1600 et quelques marques à la SS. Car les univers concentrationnaires nazis qui appartenaient à la SS avaient des firmes, des carrières, des fabriques d'armement. Le détenu revenait à 70 shillings par jour. Et en enlevant encore les 2 marques qui comptaient pour l'incinération des corps, le détenu qui avait duré dans ces 9 mois avait rapporté 1600 et quelques marques. Pour vous dire qu'eux qui ont combattu les Juifs, les Israélites, ils avaient fait des calculs sordides, plus sordides que n'auraient peut-être fait eux-mêmes, qui étaient visés pour une solution finale. Vous parlez ensuite des conditions de notre libération, disons que ce furent les différentes solidarités qui ont pu se créer entre nous. Je ne parlerai pas de la solidarité avec un grand S. Je parlerai des multiples formes de solidarité, souvent celle que j'appellerai la solidarité des mêmes vides, car nous n'avions rien. Mais même si c'est une nouvelle qu'on apprenait par des moyens détournés, qui pouvait remonter le moral de quelqu'un qui était dans le creux de la vague, eh bien, à la limite, nous l'enjolivions encore un peu pour lui remonter le moral. C'est rien. C'était que des paroles. Mais ça le remettait en selle, cette solidarité. Je vous parlerai aussi de cette tolérance qu'il y avait entre nous. C'est ainsi que, passant par-dessus nos différences de sensibilité politique, philosophique, religieuse, nous avons tous fait corps, tous ensemble, car venus pour des motivations différentes, nous combattions en fin de compte tous ensemble pour un même idéal, celui qui constitue le socle de nos démocraties parlementaires. Nous avons la chance de vivre dans un pays où il y a encore peut-être beaucoup à dire et beaucoup à faire, mais où nous sommes libres et des citoyens responsables. Car n'oublions pas qu'il y a encore des pays de barbelés où ils ne sont que des sujets asservis. Parler de la libération que j'ai faite, bien sûr, les Allemands, quand les Russes sont arrivés à Küstrin, au confins de la partie d'Oder, j'ai été évacué sur Buchenwald, où j'ai passé 3 mois de vie. Ce devenait l'enfer, car une surpopulation, les organisations de ravitaillement des camps qui représentaient déjà 900 calories par jour, pas plus, se trouvaient déjà réduites. Et nous avons été astreints quand même à une promiscuité telle que nous nous retrouvions 4 sur un chalet, chacun assis contre un montant du chalet, les genoux sous le menton, bouffés par la vermine, rongés par la gale. Voyez la qualité de soins que nous avions, ceux qui nous dispensaient pas le matin. d'aller tous les jours à la gare de triage de Weimar pour remettre en état les voies de triage qui avaient été bombardées durant la nuit. Et ceci, pas avec le matériel qu'on voit actuellement, non. La pelle, la pioche, la baramine, et puis derrière le capot, le droit commun, le triangle vert avec la trique, qui nous faisait suer le bourneau, et qui à la limite était capable d'exterminer sous la bastonnade le malheureux qui était arrivé à l'extrême limite de ses portes, que nous ramenions le soir au commando dans une bourrette. S'il n'était pas mort, s'ils auraient été comptés. Pendant 3 mois, à l'approche des Américains, on nous a mis dans un transport. Le charbon de charbon belge, qui sont de surface beaucoup plus réduites que les wagons de marchandises en bois. Nous avons été là sans ravitaillement pendant 5 jours, sans eau. Quand il pleuvait, on léchait les parois du wagon. On a pu commencer à s'asseoir au bout du 2e ou 3e jour sur les cadavres de ceux qui avaient perdu leur vie là-dedans. Asseoir putelle, qui a eu même des détenus, qui urinaient dans la boîte à conserve et buvaient leur urine. Et à un passage à niveau à la frontière tchèque, on nous a débarqué là. Il a fallu vider les morts. Ceux qui ne pouvaient plus marcher sont partis en camion, on ne les a jamais revus. Et nous avons continué à marcher 2 jours. Imaginez-vous déjà que ça faisait je ne sais plus combien de jours qu'on n'avait plus rien mangé, que nous étions affaiblis. J'avais déjà plus de 2 ans de camp de concentration. Cette marche fut meurtrière déjà, mais ne dura que 2 jours. On arriva le soir au hangar, un hall de montage à côté du camp de Flossenbürg. On a couché sur le ciment. Le lendemain matin, ils nous ont jetés dans le bas de ce camp qui était sur une colline étagée où il y avait des escaliers dont les marches étaient très hautes. Et de chaque côté, il y avait des terrasses sur lesquelles étaient bâties les baraques. Imaginez-vous ces malheureux qui avaient trimé toute la journée à la carrière de granit le soir, pour finir, obligé de remonter ces marches qui étaient un véritable calvaire. Je ne me souviens plus, mes souvenirs sont assez vagues si nous avons eu un ravitaillement pendant ces 3 jours. Il y en a qui parlent d'une soupe, enfin une soupe. Elle avait le nom de soupe, disons. Et puis les Américains sont arrivés, on nous a rejetés sur la route. Sur la route, donc, nous avons fait une marche de 3 jours. La marche de la mort de la route de Caen. Dans le Haut-Palatinat, près de la frontière tchèque. En 3 jours, sur 15 à 17 000, je ne sais pas exactement combien, 8 000 ont été exterminés. Disons que c'est une marche des plus meurtrières, peut-être moins longue que bien d'autres, mais dont la mortalité fut beaucoup plus élevée. Et puis, l'armée américaine nous a libérés, la 3e armée Patton. Disons que ça n'a pas été un cri de joie. Nous venions simplement de comprendre que la mort n'était plus omniprésente. C'est-à-dire qu'on ne risquait plus d'être abattu par une de ces brutes. Ce qui n'empêchait pas les malheureux qui avaient dépassé le point de non-retour de continuer à mourir les jours qui ont suivi. En ce qui me concerne, j'étais atteint par le typhus. J'étais hospitalisé à la ville d'Amberg qui avait pris en main les Américains. Là, nous étions 7 dans la chambrée, 12 jours de coma, quand je me suis réveillé, nous sommes ressortis 3 de vivants. Et on m'a envoyé dans une maison de repos où je me suis retapé un peu. Et je me souviens d'une bonne sœur allemande qui me dépassait de la tête, qui était forte, carrée comme une armoire. C'est elle qui me prenait dans ses bras comme un môme et qui m'a appris à faire mes premiers pas. Donc, que les valeurs qui nous ont permis de surmonter les épreuves, les espérances qui nous ont permis d'accéder à cette libération, ce furent d'abord et avant tout cette solidarité, cette tolérance et cette vigilance que nous avions les uns pour les autres pour prévenir autant que faire se pouvait tout danger. Je regrette aujourd'hui, 62 ans après, cette solidarité des camps qui passait par-dessus toutes les différences de sensibilité politique, philosophique et religieuse. Disons que pendant la marche de la mort, par exemple, la solidarité aidait nos copains qui n'en pouvaient plus tout en puisant dans nos ultimes forces. Ce n'était pas la notion de solidarité, c'est le don de soi-même. car dans la tentative de sauver celui sur qui la mort a déjà posé sa griffe, il risquait de nous y entraîner avec lui. Et cependant, nous l'avons fait. Nous ne regrettons qu'une chose, de ne pas avoir pu en sauver davantage. Et bien sûr, notre retour, quelques mois après, ce fut l'incompréhension de notre entourage. On parlait, je me souviens, des restrictions qu'il y avait en France, puisque j'ai reçu ma feuille en février 43 pour le service obligatoire, pour ton service du travail obligatoire, je m'en souviens. Mais quand on arrivait, qu'on disait, on a crevé de faim, dans l'aventure j'avais perdu 30 kilos, j'avais perdu 16 dents de décalcification, et j'avais que 22 ans. Et quand on parlait, on a eu faim, ah, mais nous aussi on avait des restrictions. On a eu froid, ah, mais nous aussi on avait le charbon, le bois qui était rationné. Lorsqu'avec la défroquerie, on subissait température de moins 15, moins 20. On était crevés, on n'en pouvait plus, mais nous aussi la vie a été très dure, il fallait faire des kilomètres des fois pour peu de choses. Si bien qu'on s'est senti incompris, nous nous sommes repliés sur nous-mêmes. Disons que notre état physique et le travail de déshumanisation qu'ils avaient fait sur nous avait déjà en partie fait son œuvre, surtout sur le plan psychologique. Et ainsi, même notre entourage disait le pauvre, dans quel état il nous revient, il déraisonne, c'est pas possible des choses pareilles, ça dépassait l'entendement, nous nous sommes repliés sur nous-mêmes. D'autre part, notre entourage direct, la femme, les enfants, les parents, nous en parlaient pas, car même 62 ans après, témoigner sur la déportation, ce n'est pas sans dommage pour nous. En fonction de nos possibilités de nous réadapter, c'est-à-dire se reconstruire physiquement, mentalement, en fonction des opportunités de l'entourage que nous avons eu, chaque déporté a tâché de reprendre contact avec la vie, ce qui fait aussi difficile que de s'adapter à la vie concentrationnaire pour la bonne raison qu'on revenait au pays, on revenait au paradis perdu, mais en 45, la France était exsangue, tout avait été pillé, volé, détruit. Et jusqu'en 48-49, il y a eu des restrictions. Pour vous dire les difficultés pour les déportés qui vivaient dans les grandes villes, les difficultés qu'ils ont eues pour se reconstituer physiquement. Et puis après, se reconstituer, il y en a qui n'ont pas pu. Et puisque dans les 10-15 ans, la moitié de ceux qui étaient revenus sont morts des suites de leur déportation. Pensons que c'est une population jeune, entre 18 et 30-35 ans. Donc ils sont morts jeunes et qui ont perdu leur vie à l'âge de 40-50 ans. Eux, ils ne se sont pas adaptés. Et puis les autres, ils ont fait en fonction des possibilités, des opportunités. Ils se sont remis en activité, réinsérés dans la société et constitués un foyer. Des enfants, des petits-enfants, oui, d'accord, c'est vrai. Mais nous avons toujours ce bagage que nous traînons avec nous et qui fait que pour nous, la vie ne sera jamais pareille que pour celle du commun des mortels. Car cette expérience concentrationnaire a fait de nous des êtres tout à fait différents. Nous traînons un bagage que nous emmènerons jusqu'à la mort. Un bagage qui aujourd'hui, compte tenu du monde dans lequel nous vivions, et le monde que nous espérions lorsque nous avons été libérés, on se demande pourquoi 50 millions de morts, pourquoi 10 millions par les crématoires. J'ai eu la réponse l'an dernier. Un fils de déporté, 58 ans, il m'a dit, monsieur, moi j'ai 58 ans, je ne sais pas ce qu'est la guerre, et je vous en dois le grand merci. Alors disons que tout n'est pas négatif, mais où elle est, cette tolérance, cette solidarité qui était dans les camps. Où elles sont passées ces figures charismatiques qui nous ont tirés par le haut? Est-ce qu'il y a encore de par le monde des Jaurès et des De Gaulle?